Olivier Mainviel, vous venez nous parler d'un livre que vous venez d'écrire et pour lequel vous faites des conférences, La chasteté à l'école des saints. Alors, Olivier Mainviel, vous êtes historien, vous vous intéressez à beaucoup de sujets et notamment aux saints qui sont passés en Béarn. Alors, racontez-nous comment s'est fait cet intérêt pour la chasteté à l'école des saints.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, c'est vrai qu'à Pau, nous avons la chance d'avoir eu une grande figure spirituelle, hein, la sainte Mariam Bawardi, qui était carmélite, qui a une vie mystique étonnante, avec beaucoup d'anecdotes formidables que certains d'entre nous connaissent déjà. Et justement, en essayant de voir un petit peu si d'autres belles figures spirituelles avaient traversé Pau. Alors, je suis bien certain qu'il y a des belles figures spirituelles anonymes qui ont traversé le Béarn, mais il se trouve qu'il y a eu un autre saint, peut-être un peu moins connu que Mariam Bawardi, c'est saint Antoine-Marie Claret, qui est catalan, donc c'est un espagnol, qui est fondateur d'une congrégation religieuse qui s'appelle les Claretins. Et ce saint Antoine-Marie Claret, il a fini sa vie en France, réfugié d'ailleurs. Et puis, en passant à Pau, il a pérégriné quelques jours à la fin de sa vie en traversant quelques jours à Pau. Et alors, ce qui est intéressant en fait dans la vie de saint Antoine-Marie Claret, pour aller au sujet, c'est qu'il a écrit un manuel à l'usage des confesseurs sur les questions de morale conjugale. Et donc, au XIXe siècle, c'est-à-dire avant que toute notre époque découvre la théologie de Jean-Paul II sur le sens chrétien du corps, bien avant Humanae Vitae, l'encyclique de Paul VI qui s'était déjà penché sur toutes ces questions de morale conjugale. Donc il y a une sorte de sujet prégnant, en quelque sorte, déjà abordé de manière très franche, très directe, sans tabou, avec beaucoup de simplicité, dans les siècles qui précèdent. Et ça a été une drôle de découverte, en quelque sorte, de lire saint Antoine-Marie Claret, sa biographie, lui-même, en fait, jeune séminariste, raconte comment, dans sa vie spirituelle, il s'est senti protégé par la Vierge Marie de tentations. Et surtout, on découvre que dans la vie des saints, le combat spirituel est mené sur tous les sujets. C'est pas très difficile en fait de les entendre ou de lire des anecdotes sur leur lutte contre la paresse. C'est pas très difficile de lire des choses sur les saints grands témoins de la vérité, de la charité. Mais c'est moins évident de les voir sur ce terrain du combat pour la pureté de cœur. Vous voyez, dans la chasteté, en fait, il y a beaucoup d'acceptions, de compréhension possible de ce mot. La chasteté, c'est pas du tout la continence, hein. On peut avoir un cœur tout à fait pur et se donner généreusement entre époux. La chasteté, c'est vraiment cette pureté de cœur qui fait que le don est gratuit, sans réserve, sans retour, et qu'il est ajusté au plan de Dieu. Alors du coup, ça entraîne que chacun d'entre nous, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre histoire, notre passé, notre éducation, nos difficultés, notre psychologie, nous avons toujours, si nous voulons bien, à réajuster un petit peu notre cœur. C'est en fait un chemin de conversion. Donc j'ai voulu, pour encourager le tout un chacun dans cette voie, j'ai cherché à compiler des petites anecdotes, et en fait il y en a beaucoup, et c'est assez croustillant mais très sympa aussi de lire tout ça. Il y a beaucoup d'anecdotes de ces belles figures spirituelles de l'histoire de l'Église qui ne se sont pas laissées terrasser par la tentation, mais qui ont cherché vraiment à garder toujours un cœur ajusté, vous voyez. Alors, voilà, peut-être
donc
que...
Donc, ce que vous nous dites, Olivier Mainviel, c'est que les saints ne sont pas des saints comme on l'entend, c'est-à-dire ne sont pas des êtres parfaits qui n'ont aucune tentation. Ils ont des tentations, comme tout un chacun, mais ils ont peut-être réussi à aller au-delà et à se faire aider par le Christ ou par la Vierge Marie.
Exactement. Ce ne sont pas des blocs de marbre, comme nous d'ailleurs, nous ne sommes pas des blocs de marbre. Toutes les dimensions de leur personne sont engagées dans le don radicales d'eux-mêmes. Et donc, ils habitent aussi des sociétés ou des époques qui ont leurs difficultés, leurs turpitudes. Et nous, au XXIe siècle, nous voyons bien comme la société est chahutée de beaucoup de choses. L'actualité, les médias nous rapportent sans cesse des tas de scandales ou parfois de comportements déviants. Et nous avons tous des exemples à l'esprit. Même parfois, le clergé peut être concerné par ces difficultés. Et donc, voilà, de retrouver toutes ces belles figures qui ne sont pas des blocs de marbre, mais qui justement en proie aux difficultés ou en tout cas à la purification du cœur à opérer s'engagent avec courage, et ben ça peut aussi nous donner du courage. En tout cas, vous voyez, ce qui est intéressant dans ces exemples, ces figures spirituelles, c'est qu'ils ne sont pas dans la culpabilité ou l'exagération de leurs difficultés, et donc ça ne les entrave pas spirituellement, ça ne les empêche pas d'avancer, mais ils ne sont pas dans le déni non plus. Donc voilà, ce ne sont pas ils n'ont pas la tête dans le sac ou dans le sable comme des autruches. Ils cherchent vraiment à se réajuster. Donc sur ce sujet de la chasteté, comme sur tous les autres, ce sont de bons modèles, de courageux soldats du Christ en quelque sorte.
Des modèles qui peuvent donc être appliqués pour des personnes mariées, pour des célibataires. La chasteté, ça concerne tout le monde.
Absolument, absolument. Chacun de nous, comme nous sommes tous engagés sur cette terre et marqués par le péché originel, eh bien nous avons, notre cœur est marqué par des fragilités. Mais ça ne signifie pas qu'elle soit rédhibitoire. Si nous accueillons vraiment la grâce du Seigneur, et bien en fait, ces fragilités, nous pouvons les dominer. Et en tout cas, nous pouvons nous réajuster. C'est un chemin de liberté. En fait, c'est un chemin de grande liberté intérieure. Donc, qui ne veut pas accéder à cette liberté? Je crois que tout le monde en est toujours désireux d'être dégagé de tout conditionnement. Donc, en fait, c'est un chemin de liberté, c'est un chemin de croissance et il faut accepter aussi de grandir par étapes. Et notre société, je pense, pourrait retrouver ça si elle le souhaite.
Alors Olivier Mainviel, peut-être quelques petits trucs que vous pourriez nous donner à l'école de ces saints pour triompher des tentations qui sont normales que l'on ressente, c'est ça que vous voulez nous dire.
Oui.
Est-ce qu'il y a des petits trucs, à part, j'imagine, la prière, mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
Évidemment, il y a plein de petites choses. Alors, je vous invite à vous plonger dans les conseils qui sont prodigués par les grands maîtres de la vie spirituelle, parce qu'en fait, vous voyez, la tradition monastique a largement aborder et travailler tous ces ressorts de la vie intérieure. Mais quand même, pour ne pas fuir votre question, vous donner quelques éléments. C'est intéressant de constater que Saint Jean Cassien, un grand maître de la vie intérieure au tournant du 4e et du 5e siècle, et puis Saint Alphonse de Liguori, qui est assez connu, qui est un Italien du 18e siècle, si je ne dis pas de bêtises, ces deux grands saints se retrouvent sur l'idée que le salut est dans la fuite. Hein. La solution, en tout cas, une des pistes importantes, c'est qu'il faut fuir les occasions de péché. Dit comme ça, ça a l'air assez évident, basique et banal, mais c'est une bonne manière de ne pas se prêter à la chute inévitable, en quelque sorte. Et alors, il y a évidemment plein d'autres choses que vous pourrez peut-être consulter dans cette petite compilation que je vous ai proposée. La garde du cœur, bien sûr, la garde du regard, la garde de la parole. Hein. Par exemple, le roi Louis IX, qu'on connaît bien sous Saint-Louis de France, par exemple, faisait très attention aux chansons qu'il chantait. Il ne chantait pas n'importe quoi et il faisait apprendre des chansons convenables, dans le langage en tout cas, à ses gardes. Saint Thomas, il y a des anecdotes assez formidables. Hein. Saint Bernard de Clairvaux, par exemple, a fait très attention de ne pas succomber plusieurs fois. Saint Benoît s'est jeté dans les orties et dans les ronces. Un jour qu'il s'est souvenu d'une jeune demoiselle dont il s'était épris dans sa tendre enfance. D'ailleurs, quand il a rencontré un certain succès et qu'il a été rejoint par d'autres jeunes hommes pour sa fondation, sa première communauté de moines, des jaloux aux alentours lui ont envoyé des danseuses romaines pour distraire les jeunes moines qui le rejoignaient. Donc vous voyez, en fait, bien sûr qu'il y a un risque, en quelque sorte, à ne pas être lucide et à rester dans trop de naïveté.
Ça peut être notre conclusion, Olivier Mainviel, donc sur votre livre La chasteté à l'école des saints. Assumer, admettre qu'on est faible et être dans cette ligne de crête entre ne pas culpabiliser et en même temps se donner les moyens de combattre.
Exactement, et vous voyez encore une fois, sur ce terrain comme sur le reste, assumer une certaine partie de combat, mais de combat juste pour grandir en bonheur et en liberté. Hein. L'Église, vraiment, comme mère et maîtresse, mater et magistrat, ne nous propose rien d'autre que d'accueillir le Seigneur dans notre cœur pour être toujours plus libre et plus heureux.
Le livre d'Olivier Mainviel, La chasteté à l'école des saints, est disponible à la librairie religieuse de Pau, 11 avenue du Béarn à Pau.